16h, presque 10 minutes. Alors, les blessés se comptent par milliers. Les morts, on est rendu à plus de 50 morts, mais j'ai comme l'impression que ça va se compter par centaines éventuellement. Si on se fie aux images qu'on a pu voir ici de ce qui se passe au Liban, à Beyrouth plus précisément, deux explosions majeures. Aujourd'hui, ça s'est passé au port de Beyrouth. On en parle avec une journaliste qui est à Beyrouth, Clotilde Bigot. Clotilde, bonsoir.
Bonsoir, Marie-Claude.
Alors, racontez-nous ce qu'on sait jusqu'à maintenant de ce qui a pu se passer.
Alors, pour l'instant, donc on sait qu'il y a eu ces deux explosions, l'une directement à la suite de l'autre. La deuxième a été beaucoup plus violente. On sait qu'il y a au moins 50 personnes qui sont mortes et 2750 blessées. Alors, l'explosion a eu lieu dans le port de Beyrouth, qui est une zone militarisée. C'est ce qui est très important de savoir. Alors, quelle a été la cause de cette explosion, de ces explosions? Il y a plusieurs thèses, mais maintenant, on se rapproche vers la thèse d'une erreur et d'une explosion qui a tout simplement fait brûler et exploser des matières dangereuses qui avaient été confisquées par l'armée et qui ont été stockées au port depuis plusieurs années.
Donc, depuis plusieurs années, ça traîne là, même si c'est très dangereux, on les laissait là.
Oui, alors ça, c'est, je peux me permettre, un autre exemple de l'incapacité de gérer quoi que ce soit des gouvernements successifs libanais. C'est un exemple comme un autre de leur incapacité à gérer le pays et à créer des situations qui peuvent se révéler extrêmement dangereuses. Il faut savoir que le Liban, maintenant, donc connaît ces explosions aujourd'hui, mais depuis plusieurs mois connaît une crise économique qui a pour cause l'incapacité du Liban, des autorités libanaises, à investir dans des infrastructures, dans l'économie, dans ce qui est le secteur tertiaire et le secteur industriel. Et maintenant, on se retrouve avec plus de 50% des Libanais qui sont sous le seuil de pauvreté parce qu'on a tout misé sur le secteur bancaire. Et celui-ci s'est révélé pas aussi infaillible qu'on ne le pensait.
Oui, ça peut arriver en effet, et c'est vraiment dramatique pour les gens qui vivent au Liban. Clotilde Bigot, comment s'organisent les secours? Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Est-ce qu'on est équipé pour faire face à une tragédie pareille?
Alors, c'est une excellente question, parce que les hôpitaux libanais actuellement connaissent de grosses pénuries. Le Liban a deux monnaies, le dollar américain et la livre libanaise. Avec la chute de la livre libanaise, tous les prix des produits importés, donc notamment des médicaments, des infrastructures hospitalières, ont énormément augmenté. On parle d'une augmentation de 400%, de 500%. Donc, les hôpitaux sont en manque de médicaments, en manque d'infrastructures, en manque de respirateurs en temps de Covid. Et actuellement, au Liban, on a aussi une crise de l'électricité. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de fioul pour avoir de l'électricité 24 heures sur 24. De toute façon, on n'a jamais eu d'électricité 24 heures sur 24, mais au moins 21 heures sur 24. Et donc, bah, il y a tout simplement des hôpitaux qui se retrouvent dans le noir, qui ont des coupures de courant. Et qui dit coupure de courant, dit aussi coupure de respirateurs.
Oui, oui, de salles d'opération, de fonctionnement voilà. Normal d'un hôpital. Eh bien, écoutez, Clotilde Bigot, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais qu'il est tard pour vous. On apprécie énormément et se peut qu'on se reparle, sinon plus tard dans l'émission, dans les prochains jours. Merci beaucoup. Il est 16h13. Nous allons parler, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure maintenant, à Sami Aoun, politologue à l'Université de Sherbrooke, spécialiste du Moyen-Orient, Libanais d'origine. Il est en contact avec plusieurs membres de sa famille, plusieurs amis à Beyrouth, un pays donc qui a connu la guerre. Enfin, on va parler à Sami tout de suite. Sami, bonjour.
Bonjour.
Sami, vous avez parlé à des gens là-bas. Ben d'abord, on est tellement à l'envers de ce qui se passe là-bas. Vous avez pu parler à des gens. Comment, dans quel état avez-vous trouvé vos amis, votre famille là-bas?
Oui, certainement les amis, la parenté, et il y a les maisons délabrées. C'est un choc horrible. C'est un désastre de jamais vu que les Libanais et les Libanaises essaient de l'identifier comme la bombe nucléaire à Hiroshima au Japon, et qu'ils disent ce qualificatif horrible, cela signifie quand même assez long, ça dit assez long, que vraiment ce qu'ils sentaient. Alors, on a presque plus de 2 milliers de maisons qui sont soit détruites, soit délabrées, avec des vitres partout. Un de mes oncles me disait que les vitres sont tombées sur eux comme la pluie. Alors, en ce sens, vous comprenez que les gens ont été fortement bouleversés.
Oui, puis y a des blessures. On en parlait avec Clotilde Bigot. C'est un pays qui ne va pas bien. Une chose, vous êtes beaucoup dans la politique internationale, politique du Moyen-Orient. Israël s'est empressé de dire qu'elle n'avait rien à voir avec ces deux explosions.
Oui, malheureusement, pour retourner un peu une seconde avant, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire qui a quitté ses fonctions, Dr Nassif Hutti, a déjà qualifié le pays comme un État failli ou un État qui est en déroute. Alors, pour rappeler maintenant la question israélienne, oui, pour l'instant, le gouvernement libanais en place essaye d'avancer cette interprétation. Ce qui est arrivé, c'est un incident par incompétence et insouciance, et en ce sens, on est en train de le dépolitiser en quelque sorte et de ne pas insister sur sa dimension sécuritaire et géopolitique. Mais pour Israël en particulier et le Hezbollah, on sait très bien que dans les dernières semaines, il y avait une tension assez forte, assez énorme. Il y a eu soit des attentats ou des accrochages ici et là, soit sur le Golan syrien, soit sur les frontières libanaises. Et on sait encore, et ce qui fait semer le doute parmi beaucoup de Libanais, que Israël a déjà, dans les dernières semaines, a frappé à la profondeur de l'Iran et de la Syrie. Et jamais ils ont tenu une responsabilité affichée, déclarée officiellement. Alors, ce qui laisse beaucoup de Libanais penser que oui, il y a eu une frappe israélienne sur cet entrepôt où il y a soit des matières explosives comme le C4 ou les nitrates, et aussi peut-être des fabrications de missiles. Ça, c'est la rumeur qui circule parmi les Libanais, mais pour l'instant, ni le Hezbollah accuse Israël, ni Israël prend la responsabilité.
OK, mais ça demeure une possibilité, mais ce serait absolument horrible.
Oui, certainement, à ce moment, le fait que ça arrive pour le Liban à un moment très critique, comme le journaliste, votre invité, l'a très bien dit, à un moment où l'État est presque dans une impasse économique, impasse politique, et en ce sens, le Liban va se sentir qu'il est vraiment soit dans le gouffre, soit au bord du gouffre.
Est-ce que le Liban aura de la facilité à recevoir de l'aide internationale?
De l'aide internationale, oui, certainement. L'aide humanitaire, oui. Sauf que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement boycotté et qui est encerclé et par soit les grandes puissances, les États-Unis particulièrement, où il y a eu comme une certaine déception de la part de la France parce que le gouvernement en place ne s'engage pas dans les réformes ni économiques, ni monétaires, ni politiques. Et on voit dernièrement le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Le Drian, a été à Beyrouth et il est sorti dans un plein désarroi comme quoi les dirigeants libanais ne sont pas à la hauteur des responsabilités et ne prennent pas les mesures nécessaires et qui s'imposent pour sauver leur pays.
Et on va terminer sur cette question, Sami Aoun. Le simple fait que ces explosifs ou ces produits-là étaient stockés depuis des années, si c'est vrai, dans le port, ben en soi, c'est une méga erreur.
Certainement, c'est une insouciance qui devrait être certainement jugée et très sévèrement. Et aussi, pour ne pas la rendre un peu floue, l'idée, on sait très bien, d'après des rapports de sécurité, qu'ils soient des factions libanaises ou des milieux libanais de sécurité et de militaires, on dit que le Hezbollah a un passage tout à fait privilégié sur ce port. Et il y a des gens qui pointent du doigt qu'il a certainement lui-même cet entrepôt qui est vraiment à côté de la base militaire de l'armée libanaise, c'est-à-dire les forces légales. Mais sur ce point, on n'a pas vraiment une confirmation.
Oui, il y a pas mal de mystères encore et comme c'est une région extrêmement sensible, extrêmement fragile, j'ai l'impression qu'on va apprendre beaucoup de choses dans les prochains jours, les prochaines heures. Sami Aoun, merci de ces renseignements fort précieux.
Je vous en prie.
Merci de ce contexte. Au revoir, Sami. Il est 16h presque 20 minutes. Est-ce que Montréal pourrait faire face à une catastrophe de ce genre? 2000, plus de 3000 blessés dans les hôpitaux. Docteur Alain Vadeboncœur, urgentologue bien connu, est avec nous. Alain Vadeboncœur, bonjour.
Oui, bonjour, Marie-Claude.
Alain, est-ce qu'on pourrait faire face à une catastrophe pareille dans les hôpitaux de Montréal?
En fait, personne ne peut faire face à une telle catastrophe de façon générale. Si on parle de, bon, là, on ne sait pas exactement combien il y a de blessés graves, là, mais si on parle de 2000, 3000, ça va dépasser inévitablement la capacité de tous les systèmes. La question, c'est jusqu'à quel point on pourrait, faire en sorte que les choses se passent assez correctement, malgré l'ampleur, là. Mais visiblement, on serait dépassé comme tous les systèmes, en fait, par l'ampleur du nombre de blessés, en fait, surtout, là, qui doivent être soignés.
Non, puis on peut imaginer, là-bas, avec l'électricité qui se fait couper régulièrement, c'est l'enfer. Je sais qu'à Montréal, et au Québec, je présume, mais à Montréal, je suis au courant là, qu'il y a de temps en temps des genres de simulations hein, de catastrophes où est-ce qu'on demande, j'imagine, aux médecins, à tout le monde, de se mettre en mode que, justement, il y a une catastrophe importante. Est-ce que c'est réaliste comme simulation en général, Alain?
Oui, en fait, je pense qu'on a un très bon système de préparation à ce type de catastrophe, là, si on veut, là, mais à des problèmes, là, disons, de quelques dizaines de blessés, par exemple, simultanés, de blessés graves. Ils s'en font régulièrement à tous les ans, en fait, et c'est des simulations qui sont faites de manière intégrée, là, donc ça implique beaucoup de gens, la sécurité publique, ça implique le préhospitalier, donc à Montréal, l'urgence santé, évidemment, les urgences des hôpitaux. Dans ce contexte-là. Mais c'est une question d'ampleur, hein? Donc il y a une différence entre quelques dizaines de blessés et avoir, disons 2000 blessés graves là qui sont acheminés dans les urgences. Faut imaginer, on a une faiblesse, nous, qui est que les urgences sont pleines. Je regardais ça tantôt, les deux centres de trauma, par exemple, actuellement, là, de Montreal General puis le Sacré-Cœur sont en débordement. Et donc, déjà, les centres où les blessés les plus graves iraient sont déjà en débordement. Il faut faire de la place, donc, dans un contexte comme ça, pour recevoir des dizaines et des dizaines de blessés, probablement dans tous les hôpitaux. Mais comment faire de la place très rapidement? Parce qu'on parle d'une question d'une heure ou deux, là, c'est extrêmement rapide. Ça serait tout un exploit de s'en sortir le moindrement correctement. Mais bon, c'est une question d'ampleur, hein, c'est une question de nombre.
Énorme défi. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher aussi de penser à ce qui s'était passé à New York en septembre 2001. C'était une situation un peu du même genre, où est-ce que en quelques heures, c'est des milliers de personnes qui ont besoin d'aide, des gens blessés. Il y avait eu de nombreux morts, on s'en souvient. Ça a changé le monde complètement. Alors, on va se souhaiter que ça ne se passe jamais, qu'il n'y ait jamais quelque chose d'aussi grave. Mais en même temps, comme je vous dis, je suis très secouée par ce qui se passe, par les images qu'on voit de ce qui se passe là-bas. C'est inimaginable. Alors,
Le Liban a tellement eu son lot historiquement de catastrophes et de tragédies. C'est vraiment triste et effectivement, ils vont être sous une pression énorme. Mais ça serait vrai pour n'importe quel endroit dans le monde.
Absolument.
Même les plus riches endroits. Et on leur souhaite quoi? Je ne sais pas quoi leur souhaiter.
Je suis dans le même état que vous, Alain. C'est ça, nos sympathies, notre compassion, notre empathie. Mais enfin, bref, ça a été, j'allais dire, un plaisir de vous parler, oui, dans le contexte. Je préférerais un autre contexte. Mais merci d'avoir pris le temps, Alain Vadeboncœur, de nous expliquer comment on peut s'organiser dans une situation. Remarquez que je suis sûre qu'on s'organiserait s'il arrivait quelque chose. Puisque
on n'a pas le choix.
On est débrouillard. Puis on est résilient, mais quand même, on ne souhaite pas ça à personne sur la planète. Alain Vadeboncœur, médecin urgentologue, merci beaucoup.
Oui, bonne journée, Marie-Claude.
Bye-bye, Alain. 16h24, on s'arrête pour une petite pause. Au retour, en principe, les sports et après, arts et spectacles et tout, on devrait continuer l'émission comme d'habitude.